le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est directeur de Sciences Po Paris.
Bonjour Mathias Vichra.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous, c'est votre première interview depuis que vous avez été très largement élu patron de Sciences Po le 10 novembre dernier par les instances dirigeantes de l'école. Une nomination qui intervient dans la foulée de l'affaire Olivier Duhamel qui avait entraîné la démission de son emblématique, de l'emblématique directeur de l'école, Frédéric Mion, et l'installation d'une direction temporaire pendant quelques mois dirigée par Bénédicte Durand. Après le tumulte, après le fracas de l'affaire Duhamel, vous dites « mon mot d'ordre, c'est d'apaiser l'école ». L'apaisement, d'accord, mais est-ce que ça veut dire l'anesthésie ou l'endormissement de Sciences Po ?
Non, l'apaisement, c'est d'abord le fait de réunir les différentes communautés. Je vais lancer en début février une grande consultation de tous les salariés qui n'ont pas été consultés depuis 10 ans. L'apaisement, c'est aussi avoir des logiques de collégialité avec les différentes communautés, les enseignants, les salariés. Et l'apaisement, c'est aussi prendre en compte certains problèmes, notamment sur les violences sexuelles, et y répondre de manière précise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une écoute externalisée avec France Victimes et que j'ai recruté une magistrate début janvier pour diriger une cellule d'enquête pour caractériser les faits. Donc l'apaisement,
parce
c'est tout ça.
Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que après l'affaire Duhamel, il y a eu ce hashtag #SciencesPort où beaucoup d'élèves se plaignaient d'avoir été agressés sexuellement. Est-ce qu'il y avait une omerta particulière à Sciences Po?
Non, je crois pas qu'il y avait une omerta particulière. D'abord, ça confondait les différents Sciences Po, parce que c'était pas seulement Sciences Po Paris. Et par ailleurs, je pense que le dispositif n'était pas assez robuste et pas assez efficace. Et ce qu'il faut dans ce domaine, c'est pas seulement de l'incantation ou de la communication, c'est juste un dispositif qui sanctionne, qui est efficace et qui permet effectivement d'éviter que ce type de...
Ce sera quoi la sanction ?
La sanction, c'est à la fois article 40 du procureur de la République et ensuite sanction disciplinaire qui peut aller évidemment jusqu'à l'exclusion. Ça ne veut pas dire anesthésie. Ça, c'est d'abord, le premier plan, c'est apaiser. Ensuite, évidemment, il y a une logique de dépassement, de développement, que l'on va poursuivre à la fois à l'international, que l'on va poursuivre dans la dimension d'université de recherche. J'ai dit que je voulais recruter 30% d'enseignants permanents de plus. Et j'ai dit aussi qu'on avait une ambition très forte en matière pédagogique sur la transition écologique et la transition numérique.
Avant d'entrer dans le détail de votre programme, que vous avez annoncé il y a quelques jours à l'occasion des 150 ans de l'école, un mot sur vous. Vous êtes un ancien élève de Sciences Po et de l'ENA. De ce point de vue-là, pas de révolution. Sauf que vous avez longtemps travaillé dans le privé, directeur général adjoint de la SNCF, puis secrétaire général de Danone, ce qui a fait dire à un de vos collègues dans un portrait de vous à l'AFP, il s'est occupé des trains et de yaourts, alors pourquoi pas d'élèves ? Ce qui est assez drôle. Vous
il y a même eu Sciences Po de yaourt, comme blague.
Ah, c'est pas mal. Plus sérieusement, certains professeurs espéraient une personnalité académique, une personnalité universitaire à la tête de Sciences Po. Pour vous, venir du privé, c'est un plus aujourd'hui pour diriger une grande école ?
Non, d'abord, j'ai fait la plupart de ma carrière dans le public. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise publique, la SNCF, et dans une entreprise privée, Danone. C'est un peu à l'image des débouchés de Sciences Po. 70% des élèves de Sciences Po sortent dans le privé. 10% dans le monde associatif, 20% dans le public. Donc il y a un moment où, si vous avez une personnalité comme directeur qui incarne les débouchés, c'est peut-être aussi un effet miroir qui peut être souhaitable. Ça, c'est pas à moi de le dire, c'était les comités qui ont décidé de me choisir. Ensuite, je crois qu'il faut avoir une approche de l'école qui est une approche renouvelée. Aujourd'hui, 50% des étudiants sont internationaux. Nous avons une deuxième place dans les classements internationaux sur la science politique et la politique internationale. C'est une école qui a fondamentalement bougé depuis le moment où j'en suis sorti, il y a 20 ans. Donc il faut avoir un regard neuf.
Et un regard neuf, ça veut dire mêler le privé et le public, c'est ça l'idée en fait, c'est faire une business school, avoir un logiciel de chef d'entreprise.
Non, ça veut dire d'abord avoir une forme de pragmatisme sur la question du modèle économique. Le modèle économique, c'était les 2/3 de subventions publiques il y a 20 ans, aujourd'hui ça n'est plus 1/3. Donc il faut renouveler le modèle avec des partenariats privés, évidemment en étanchéifiant et faisant en sorte que le privé n'intervienne pas dans la recherche ou les programmes académiques, mais c'est aussi un développement très fort avec une logique très importante pour nous, qui est à la fois l'égalité des chances et l'excellence. Mmh. Lors des dernières admissions, pardon, je vous donne 2 chiffres parce que c'est vraiment important. On a dit qu'on avait bradé l'excellence. J'ai pu lire ça dans certains médias. C'est totalement faux. Dernière admission, d'abord, plus 100% de candidats. Ensuite, 97% des admis mentionnent très bien au bac, dont 50% félicitations du jury et 30% de boursiers. On a augmenté de 5 de 5 points le nombre de boursiers. Donc ça veut dire que c'est possible de conjuguer excellence et égalité des chances.
Alors vous parlez des boursiers, puisque la critique qui revient le plus souvent concernant Sciences Po, vous le savez, c'est que ce serait l'école des élites qui resterait dans l'entre-soi. Et il y a eu une étude publiée il y a un an qui montre que l'écrasante majorité des élèves de Sciences Po vient des meilleurs lycées parisiens, c'est aussi une autre critique, et que 66% des admis ont un parent cadre ou exerçant une profession intellectuelle supérieure, seulement 7% sont des enfants d'employés ou d'ouvriers. Qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre ça? Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis l'époque des coins, depuis 20 ans, etc. Mais à chaque fois, il y a cette critique qui revient.
Alors, d'abord, il y a encore un chemin. Il faut aussi regarder tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous avons quasiment 30% de boursiers. Nous sommes très largement au-dessus de toutes les grandes écoles. 30% de boursiers. Je vous rappelle que quand vous êtes boursier, vous ne payez pas vos études et en plus on verse 75% en plus de la bourse d'État. Ensuite, sur les conventions d'éducation prioritaire, aujourd'hui c'est 10%. Dans deux ans, je souhaite que ce soit 15%. Des admis, on va passer à 200 lycées partenaires, en allant davantage dans les zones rurales et périurbaines. Donc, on est en train de bouger, mais la réalité, c'est que nous sommes une école de plus en plus plurielle. Sur la dimension géographique, je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres, mais ils ne sont pas réaliste par rapport à la situation actuelle. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y avait plus de 50% de mes condisciples qui venaient de Paris. Aujourd'hui, les Parisiens et les Franciliens, c'est moins de 30% dans les admis. Moins de 30%. Ça veut dire que 70% des entrants à Sciences Po viennent des régions en dehors de l'Île-de-France. Ça, c'est une nationalisation de l'excellence et ça, c'est une stratégie que je souhaite mener à bien.
Je vais vérifier les chiffres et je vous les transmettrai. Il y a une autre critique qui revient beaucoup ces derniers temps, qui a fait l'objet d'un long papier dans l'Express il y a quelques mois, concernant l'idéologie woke qui infiltrerait Sciences Po. Dans l'article, il citait notamment des associations qui voulaient interdire que le mot nègre soit prononcé par des étudiants qui ne seraient pas noirs. Il y a ceux aussi qui ont manifesté pour empêcher Alain Finkielkraut ou d'autres de venir tenir une conférence à Sciences Po. Y a-t-il un péril woke à Sciences Po, une réelle menace qui pèserait sur la liberté d'expression, ou pour vous c'est un fantasme?
Alors, trois choses. La première, c'est que je pense qu'il faut se dire que l'éthique du débat, le pluralisme, pour moi, c'est une priorité absolue à Sciences Po. Il doit y avoir un pluralisme. Après la guerre, vous aviez des communistes, des gaullistes, qui donnaient des cours, qui construisaient le futur de Sciences Po. Moi, je veux retrouver une vraie forme de pluralisme. La deuxième chose, c'est que sur le wokisme, je pense qu'il y a un effet de loupe. La réalité, depuis mes deux mois à Sciences Po, c'est qu'on ne parle pas de wokisme matin, midi et soir. Ça représente une portion très congrue des discussions, mais vraiment extrêmement congrue. Donc je pense qu'il y a un effet de loupe et un effet un peu pavlovien qui permet de vendre parce que Sciences Po devient la cible récurrente de ce type d'attaque.
Donc c'est un mauvais procès ?
Donc je ne dis pas que c'est un mauvais procès, je dis que ce sujet doit être pris dans un cadre pluraliste. Et qu'en ce qui concerne, d'abord, woke, c'est un mot fourre-tout aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des idées progressistes en matière de climat et être considéré comme woke. C'est pas très scientifique comme approche. Mais pour moi, d'abord, c'est le pluralisme. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a des sujets d'intégrité scientifique, nous avons à Sciences Po des responsables en matière d'intégrité scientifique, donc il peut y avoir une contestation des travaux, le cas échéant. Moi, ce que je veux, c'est fonder le débat et les recherches sur la science, dans un cadre pluraliste.
Mais Mathias Vichra, quand vous regardez ce qui se passe à l'IEP Grenoble, c'est pas sous votre direction, mais regardez ce qui se passe depuis quelques mois, avec un professeur suspendu 4 mois, traité d'islamophobe, parce qu'il avait affirmé que Sciences Po Grenoble n'était plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique, laissant entendre qu'on ne pouvait plus tout y dire. Vous seriez patron aujourd'hui de Sciences Po Grenoble, vous l'auriez suspendu ce professeur ?
Non, ça je veux pas répondre, c'est pas ma responsabilité. L'IEP de Grenoble a une personnalité morale, je vais pas commenter.
Mais pour vous, il n'y a pas un problème là.
Ce que je veux dire, c'est qu'à Paris, je veux davantage encore de pluralisme, je l'ai dit. Il y a effectivement des sujets qui peuvent concerner des enseignants ou des étudiants, mais pour moi, ça doit s'inscrire dans un cadre scientifique et pluraliste.
Dernière question, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les universités et les grandes écoles il y a quelques jours. Ça a fait beaucoup réagir. Il veut une réforme systémique de l'université. Ça suffit, le double système grande école pour les élites et université qui éduquerait les masses, dit-il. Il veut en finir, il veut faire de l'université le pilier de l'excellence. Et puis il dit aussi qu'il faut revenir sur la quasi-gratuité de l'université. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Valérie Pécresse lui a répondu en parlant de provocation. Est-ce qu'il faut faire payer les étudiants à l'université ?
Encore une fois, nous avons un modèle à Sciences Po qui est un modèle où l'on peut payer assez cher ses études, mais dans une dimension à la fois de progressivité, en fonction du,
de ce que gagnent vos parents.
Des parents, une très grande progressivité, et avec, encore une fois, plus de 30% des élèves qui ne payent pas leur scolarité. Donc nous avons un modèle que je trouve, moi, progressiste et équilibré.
Mais à l'université, quel est votre avis ?
En ce qui concerne l'université, franchement, encore une fois, vous avez considéré que j'évite le débat. Je ne vais pas me prononcer sur le modèle
Sciences
des universités.
Po Grenoble, je comprends que vous évitez le débat, mais sur l'université, vous êtes aujourd'hui un dirigeant de grande école. Donc
oui,
vous avez
et je
un
participe
avis,
à France Université, qui est la nouvelle instance. Ce que je crois là-dessus, c'est que s'il y a une logique d'augmentation, il faut impérativement qu'elle se passe dans un cadre de progrès social, c'est-à-dire avec des barèmes, avec des bourses renforcées et avec une logique de progressivité en fonction des revenus des parents.
Mathias Vichra, nouveau patron de Sciences Po Paris, était notre invité. Merci à vous, belle journée.
Merci.
Et merci Léa, tout à l'heure, 8h20.
France Inter.